Chapitre 68. Août 2019. Max Blackwood, l'agent immobilier, patiente devant le presbytère de Saint-Alban. C'est une matinée fraîche et il porte un pull par-dessus sa chemise. « Bonjour, bonjour !» lance-t-il d'une voix chantante quand Lucie descend de la voiture. « C'est le grand jour !» Lucie attend que Stella ouvre la portière arrière. Henry sort par la place passager et Marco de son côté. Ils se tiennent tous les quatre devant la maison. « Putain !» fait mine de murmurer Henry à Marco. « Je vois mieux ce que tu voulais dire. »« Je t'avais prévenu, » répond Marco. « Je déteste passionnément la maison. » Complètement claqué, ce taudis. Stella serre la main de Lucie avec enthousiasme. Elle a demandé pendant tout le trajet quand ils arrivaient, car elle veut revoir sa chambre. Les enfants ne sont venus qu'une seule fois, juste avant la signature du compromis. Aujourd'hui, l'acte de vente a été signé, et Lucie s'avance vers l'agent immobilier qui lui tend les clés.
« Merci beaucoup, » lui dit-elle. « Je crois que c'est le jour le plus excitant de ma vie. Vous savez, c'est la première fois que j'aurai un chez-moi à 40 ans.
« Mieux vaut tard que jamais, » répondit-il avec un grand sourire. « Et ça valait le coup d'attendre, je crois. C'est une si belle demeure. »
Ils lui disent au revoir un moment plus tard, et quand il part, Libby et Miller se garent dans l'allée. Sa fille porte un énorme bouquet dans les bras et Miller une bouteille de champagne.
« Bon déménagement !»
s'écrie Libby en courant vers Lucie pour l'étreindre. Libby a déjà vu la maison, mais pas Miller qui l'observe depuis l'allée.
« Lucie, c'est magnifique, mais il va falloir que tu te retrousses les manches. »
« Oui, je sais bien. Il se trouve que la meilleure conceptrice de cuisine de la région a déjà fait les plans pour la future cuisine. » Qui va être exceptionnel.
Dido va superviser la majorité des travaux. Elle a réuni une équipe de décorateurs des environs et un architecte pour mener à bien le projet. Mais là, tout de suite, Lucie veut seulement entrer dans sa première maison, avec ses 3 bébés, tous au même endroit, enfin. Elle tourne la clé dans la serrure et éprouve un frisson de plaisir quand la porte s'ouvre. Chaque fois qu'elle a visité la maison, c'était l'agent immobilier qui tournait la clé et poussait la porte. Ils sont à l'intérieur et, même si tout est sale, cassé, mal meublé et délabré, son cœur déborde d'une joie qu'elle n'a jamais ressentie de sa vie. Fitz trottine devant eux jusqu'à la porte à l'arrière de la maison. Il sait que derrière s'étend un jardin de 60 mètres de long, rien que pour lui. Stella court dans l'escalier jusqu'à sa chambre avec Libby, et Lucie entend sa cadette expliquer l'emplacement exact de son lit mezzanine et l'endroit où elle jouera à la dinette avec les 2 Freya quand elles viendront pour des soirées pyjama, ce qui, d'après Stella, arrivera en permanence. Lucie reste en bas avec Miller et Henry, faisant le tour des pièces et parlant de l'emplacement des différents meubles selon les plans de Dido. Puis elle se retourne et voit Marco dans son coin, dans l'entrée, qui tape sur une plinthe du bout de sa chaussure.
« C'est trop tard pour changer d'avis ?»«
Oui, oui, »
répond Lucie, qui depuis 2 mois supporte ses suppliques pour continuer à vivre chez Henry, à aller au collège à Londres et pour ne pas partir avec elle à la campagne. Un instant plus tard, Marco a rejoint le chien dans le jardin. Il a trouvé une balle de tennis quelque part et la lance à Fitz, qui détale à l'autre extrémité du terrain pour l'attraper et la lui rapporter. Et Lucie voit les joues de son fils s'empourprer et elle sait qu'il va finir par adorer cet endroit. Libby commande une montagne de pizzas extra large et il les mange dans le jardin avec le champagne pendant que Stella joue sur le trampoline avec le chien. Les 2 derniers mois ont été particulièrement stressants. L'histoire du suicide de Justin, de la popstar assassinée et des enfants affamés séquestrés dans un manoir de Chelsea avait bien entendu fait les gros titres. Les journaux ne s'en lassaient pas. Les articles étaient accompagnés de photos de Birdie, de la maison, de Lucie quittant l'appartement de Henry avec le chien, de Libby et Miller devant leur domicile de Saint-Alban, de Martina et Henry Lamb après leur mariage, du berceau de chez Harrods avec les petites fleurs bleues dans lesquelles la police avait retrouvé Libby, du camping-car de Justin, du pub où il allait régulièrement. Il y avait aussi une photo d'un jeune homme nommé Jason Mott, l'écumeur de berge qui avait repêché les os dans la Tamise. Il avait une touffe de cheveux blonds vénitiens et portait une veste sans manches aux multiples poches. Il racontait
« J'ai trouvé des choses très étranges au cours de mes années passées à arpenter les berges et les grèves.
De fausses dents, des balles de golf, des pièces romaines, des bijoux. Mais ce sac d'ossements est la découverte la plus choquante de ma carrière. À cause de lui, un homme est mort, et j'aurais préféré le rejeter dans le fleuve. Si je pouvais changer le passé, je n'hésiterais pas. Mais les feux des projecteurs s'éloignent peu à peu. La presse passe à autre chose, le public également. Lucie a sa propre maison. Henry a retrouvé le calme de son appartement. Ils ont demandé leur certificat de naissance et ont repris leur véritable identité. L'acte de propriété du presbytère est au nom de Lucie Martina Lamb. Ils sont libérés des fantômes qui les ont poursuivis des années durant. Ils ne se cachent plus. La maison de Shane Walk n'occupe plus leur esprit. Leurs vies ont enfin pris un cours normal. Il reste néanmoins une pièce manquante, et au fur et à mesure que l'après-midi avance, Lucie ne peut s'empêcher de regarder l'heure sur son téléphone, de jeter des coups d'œil par la fenêtre, et chaque minute qui passe la rend plus distraite, moins présente à ce qui arrive autour d'elle. Enfin, vers 17h, elle entend une voiture se garer sur le gravier de l'allée et la sonnette retentit.
« Libby, tu vas ouvrir ?»
lance-t-elle à sa fille. Lucie s'installe dans un coin de l'entrée et observe sa fille aller ouvrir la porte à un grand homme aux cheveux blonds cendrés qui arbore une barbe broussailleuse et lui sourit timidement. Son cœur s'emballe quand elle le voit. Elle s'approche un peu, en restant dissimulée. Elle entend des pas, se retourne et voit Henry se diriger vers elle. Elle pose un doigt sur ses lèvres, il hoche la tête et s'immobilise.
« Oui ?»«
Bonjour, tu es Libby ?»«
Oui, et vous ?»«
Je suis Finn. »
Oh !
Une petite syllabe, le souffle court.
Je vois.
Lucie et Henry échangent un regard. Elle sent son frère lui presser l'épaule et elle lui attrape la main.
J'imagine que personne ne t'a prévenu que...
Libby fait non de la tête.
Personne ne m'a rien dit.
Ça doit te faire un sacré choc.
On peut dire ça,
commande-t-elle en riant.
Vous voulez...
Oui, merci. Avec plaisir.
Lucie et Henry reculent en entendant Libby guider Finn dans la cuisine.
Je devais arriver il y a 2 heures, mais j'étais encore noué avec ma mère et ma sœur, et la circulation était atroce. J'espère que je n'ai pas gâché votre journée.
Non,
répond Libby d'une voix enjouée.
Pas du tout. On a passé un très bon moment et maintenant...
Lucie retient son souffle.
Maintenant, c'est encore mieux. Bon, qu'est-ce que tu veux? Du vin, une bière, une part de pizza froide un peu dégueu?
Lucie les entend rire, le rire de sa fille et du père de sa fille, un vendredi après-midi dans sa maison. Elle se tourne vers son frère radieuse. Elle articule silencieusement un « merci ». Puis elle lui serre la main et ils avancent tous les deux dans la cuisine. Leur famille est enfin au complet.